Du 25 au 28 juillet prochain, Montréal accueillera les championnats canadiens d'athlétisme junior, senior et paralympique. Ça se passera au Centre Claude Robillard. Son ambassadeur Bruni Surin est avec nous. Salut Bruni.
Oui, salut, ça va?
Comment ça va toi?
Top shape.
Toujours le fun d'avoir la chance de te parler. Écoute, c'est un événement qui est majeur qui s'amène à Montréal. C'est la première fois en 20 ans qu'on aura la chance d'avoir les championnats canadiens. Parle-moi de l'ampleur de l'événement.
Écoute, ça va être vraiment gros. Et en lisant, en faisant les calculs, puis je me dis, ça fait déjà 20 ans, 21 ans même que j'ai participé à ces championnat canadien à Montréal. Ça va être au Centre Claude Robillard. Vous avez André Degrasse qui a gagné la première fois qu'il participe aux Jeux Olympiques. 3 médailles d'or. Il y a eu des saisons de rêve. Si vous avez jamais vu quelqu'un courir en dessous de 10 secondes sur un 100 mètres, je vais vous le dire, quand vous le voyez live, il faut pas que vous manquiez ça. En plus, il va avoir son grand compétiteur, Aaron Brown, aussi de Toronto. C'est une grande rivalité, amitié-rivalité. Au début de saison, c'était plus Aaron Brown qui dominait, si on peut dire. Mm-hmm. André Degrasse revenait d'une blessure. Mais là, ça fait à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines, j'étais à Vancouver. Puis c'est là que André Degrasse a fait une meilleure performance que Aaron Brown. Donc, il va avoir une très, très grande rivalité au 100 mètres et au 200 mètres. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce championnat? C'est pas juste le sprint. Bon, oui, moi, j'ai très hâte au 100 mètres, évidemment. Mais il y a plein d'autres épreuves aussi. Si on parle de Melissa Bishop au 800 mètres, lors des derniers jeux, elle a terminé 4e. Là, elle revient de maternité. Puis déjà, elle a fait de grandes performances. Ça promet aussi. On a Derek Drouin, champion olympique, qui revient aussi d'une blessure. Donc, il y a beaucoup d'épreuves que vous allez avoir des athlètes de niveau vraiment international. Donc, si vous manquez ça, vous allez manquer quelque chose. Ça, c'est sûr et certain.
Je veux qu'on en parle. Oui, évidemment, on va faire le tour là, des compétitions qui seront là, mais je veux qu'on en parle du 100 mètres parce que c'est l'épreuve reine. Ouais. C'est ce que tout le monde regarde. C'est à ce que tu as participé. Tu as fait ça aux Jeux olympiques.
Ouais.
Je rappelle aux gens, ton temps, à moins de me tromper, c'est 9,84, c'est
9,84,
ça?
9,84,
exactement. Et le record du monde de Usain Bolt était 9,58.
Exact.
C'est pas très, très loin.
Ouais.
Je veux qu'on parle, tu as dit, ce sont des compétiteurs. Tu faisais référence à Degrasse et à son collègue. Tu as dit, ce sont des compétiteurs. Est-ce que c'est important, ça, d'avoir une compétition pour pousser l'autre davantage?
Il faut ça absolument. Moi, je pense que qu'est-ce qui est bien là-dedans, c'est que les gars peuvent faire, bon, ça peut être des filles aussi, quand vous faites la compétition, oui, c'est bon d'avoir une rivalité, mais souvent, il y en a qui prennent ça, je pourrais dire, encore plus personnel, ils deviennent ennemis, je pourrais dire, en dehors de la compétition. Ça arrive souvent, puis c'est très, très rare que tu vas avoir une grande amitié entre athlètes, surtout au 100 mètres. Ça, c'est très, très, très rare. Dans mon cas, j'ai eu une relation de amour-haine avec Donovan Bailey.
Ah oui?
Dans le temps, c'était... Puis en même temps, je m'entraînais avec lui. On avait le même entraîneur au Texas. J'avais mon entraîneur aussi, Michel Portman, à Montréal. Mais moi, c'est ça. Moi, il me faut de la compétition. Je vais où est-ce qu'il y a de la compétition, mais je peux faire la part des choses. Après la compétition, écoute, anecdote, la première fois que j'étais champion canadien, la première fois que Donovan m'a battu, je me rappelle très bien, on était à Nuremberg, en Allemagne. Mm-hmm. Puis c'est la première fois qu'il me battait. Puis je l'ai invité à souper. Puis on buvait de la bière ensemble après, on s'est gâté un peu.
Puis là,
quand j'ai compté ça à mes amis, j'ai appelé mes amis à Montréal pour dire, ben, je suis en train de souper avec Donovan. Mes amis m'ont dit, écoute, t'es malade. Tu sais, il t'a battu, c'est ton compétiteur. Mais je dis, ouais, mais il m'a battu sur la piste, mais je fais la différence.
OK, tu voulais lui montrer que, sommairement, ça te dérangeait pas parce que t'étais capable de revenir et de compétitionner davantage.
Exactement.
Il faut partir une guerre pour absolument rien, mais plutôt avoir la meilleure guerre possible, sur la piste, sur le 100 mètres.
Exactement. Mais qu'est-ce qui est important aussi? Tu vois, là, on parle de Aaron Brown puis André Degrasse, mais il ne faut pas oublier que oui, les gars sont compétiteurs au 100 mètres, mais après ça, dans un championnat, ils se retrouvent ensemble.
Dans le relais,
l'esprit d'équipe, puis ça, c'est très important. D'ailleurs, lors des derniers Jeux, moi, j'avais prédit que l'équipe du 4x100 allait terminer 5e, parce que j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la saison. J'ai vu les Américains, les Jamaïcains, les Chinois sont très, très forts au relais aussi, les Japonais. Je me dis, si les gars terminent 5e, ça va être très beau. Sais-tu que une journée avant la finale, on avait une promotion à faire entre Glenroy Gilbert, maintenant qui est l'entraîneur du 4x100. Après notre promotion, j'ai posé la question. J'ai dit, Glenroy, comment est l'esprit d'équipe, les gars, comment ça se passe? Il me dit, écoute, Bruni, l'entraînement, ça va super bien, mais surtout, les gars, ils s'entendent super bien. Puis la relation qu'ils ont, ça me rappelle nous autres en 96.
OK, OK.
Quand je suis retourné en onde, juste ça. J'ai pas vu les gars à l'entraînement, rien du tout. J'ai dit, je change mes prédictions. Je serais pas surpris que les Américains, encore une fois, vont faire une erreur. Puis, je dis maintenant, les Canada, médaille de bronze. Qu'est-ce qui est arrivé? La tradition des Américains, ils ont fait une erreur, éliminé entre le premier et le deuxième coureur, et les Canadiens ont passé médaille de bronze.
Mais dis-moi, tu me parles des Américains, puis là, évidemment, ça fait pas référence au championnat canadien qui aura lieu ici à Montréal du 25 au 28 juillet, mais je saisis la balle au bon. Tu dis encore une fois, les Américains font une erreur. C'est quoi le problème? C'est quoi? C'est un petit peu trop d'égocentrisme? C'est quoi le problème?
Il y a beaucoup d'égocentrisme, et il y a aussi l'attitude de, ben écoute, moi, on est les plus rapides. Tu peux pas me dire, mais moi, que je cours en première position ou le troisième coureur ou que je termine la course, c'est pareil parce que je suis plus rapide. Ils ont cette mentalité-là. Mm-hmm. Puis ils n'ont pas cette mentalité-là non plus de dire, ben écoute, les 4-5 gars, pendant la saison, on va faire plusieurs compétitions ensemble. On va se tenir ensemble pour essayer d'avoir le comment t'appelles ça?
La team spirit, la chimie.
Ouais. Ça, eux autres, ils veulent pas ça. C'est comme eux, ils arrivent dans un championnat. Bon, ben, c'est qui le plus rapide? On vous met comme des numéros, puis on vous lance à faire un relais. Ils ont encore cette mentalité. Tant mieux pour les autres pays. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a bénéficié de leur attitude aussi.
Parce qu'on peut se rendre compte en même temps que lorsque tu performes individuellement, ça peut être payant quelque part aussi. Il y a des commanditaires qui sont là, veut pas. On voit au bout de la ligne d'arrivée, là, tu vas me dire que c'est une mauvaise métaphore, mais on voit au bout de la ligne, il y a du bidou.
Il y a beaucoup de bidou. Il y a beaucoup de bidou, mais en même temps, c'est pas bien. Encore aujourd'hui, c'est mal partagé. Aujourd'hui, bon, c'est sûr que le cas d'André Degrasse, c'est un cas particulier. Le cas de Usain Bolt, qui est à retraite, mais dans le temps, c'est un cas particulier. Mais quand on parle des athlètes niveau international en général, c'est pas bien partagé.
Et qu'est-ce que tu dis qui est particulier avec Degrasse?
Ben, parce que là, écoute, quand tu signes un contrat de 12 millions,
c'est assez particulier.
En athlétisme, c'est pas.
Est-ce que ça change l'athlète? Des fois, d'avoir de gros revenus comme ça?
Dans le cas d'André, heureusement, ça l'a pas changé. Parce que je l'ai vu avant, pendant et même maintenant, il a vraiment pas changé. Il a pas la grosse tête. C'est un gars très tranquille. Puis moi, c'est ça que je conseille à tous les jeunes aussi potentiels qui ont ce potentiel-là de graduer, d'être dans les tops au monde puis faire beaucoup d'argent. Je le dis tout le temps, oubliez jamais d'où ce que vous venez. Mm-hmm. Puis respectez les gens, changez pas.
Moi, Bruno Surin, je regarde Degrasse et j'ai l'impression qu'il n'est pas ce qu'on s'imagine du prototype du coureur de 100 mètres, c'est-à-dire fort physiquement, les biceps, les pectoraux.
Il n'est pas comme ça.
Il n'y a pas cette stature-là. Comment t'expliques sa grande vitesse?
La première fois que je l'ai vu, j'ai fait un choc. Je me suis reculé, puis je regardais ses jambes. Je dis, mais voyons donc. Puis j'ai dit, are you serious? C'est comme, voyons, il y a l'air d'un coureur de, je pourrais dire, de 800 mètres, 815 mètres. C'est fou. J'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui lui différencie beaucoup? Oui, il y a le talent, il y a la génétique et tout. Mais au point de vue psychologique, là, c'est incroyable. Parce que lui, il aurait pu se dire, ben, écoute, regarde comment je suis petit, tout ça. Puis, quand on l'a vu, la compétition aux 200 mètres en demi-finale lors des derniers Jeux Olympiques, il y avait Usain Bolt à côté de lui. Puis
il n'a pas semblé intimidé du tout.
Il n'était pas intimidé pour deux sous, là. C'était fou. C'est sûr que ça a créé un froid aussi. Puis c'est comme si Usain Bolt disait, le petit jeune, il n'y a aucun respect pour moi. Mais écoute, le petit jeune, il a fait son boulot. Il a très bien fait son travail. C'est ça qu'il devait faire.
Et la game mentale est importante, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, sans que ça soit aussi clair que ça, mais il y a de l'intimidation entre les concurrents.
Il y a de l'intimidation. Aujourd'hui, il y en a moins, beaucoup moins même, je pourrais dire. Puis c'est qui a amené ce côté-là? C'est Usain Bolt, justement. Avant Usain Bolt, tu voyais les gars, si on parle du 100 mètres, les gars se parlaient pas au début, là. Avant une course, là, c'est comme chacun pour soi, t'essaies d'intimider l'autre et tout ça. Après Usain Bolt, il va parler à ses compétiteurs, il va leur serrer la main, il va faire des jokes, puis ça détend l'atmosphère. Puis là, Monique, les autres sprinteurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, si ça fonctionne pour Usain Bolt, nous autres aussi, on va le faire. Fait que tout le monde s'est mis à faire ça. Mais dans notre temps, dans mon temps, c'était pas ça du tout.
Ben non, mais on se souvient, c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait eu à Toronto? C'était Donovan Bailey contre Johnson, ou quoi?
Michael Johnson.
Ouais, aux 200 mètres, écoute. Ouais.
Ça, c'est fou.
Hey, j'ai rarement suivi une course comme ça. Et j'étais là, tout le monde va dire, OK, l'Américain, il s'est blessé. Ouais. J'ai l'impression que c'est parce qu'il sentait qu'il était battu. C'est pour ça qu'il a arrêté. Je me trompe-tu?
Ben, finalement, il s'était vraiment blessé.
OK.
Ouais, ouais. Mais c'est ça. Tu vois, dans ce temps-là, aujourd'hui, on voit plus ça. Les gars se lançaient des mots. C'est des mots que je peux pas dire en ondes, là. C'était pas beau, là. Puis c'est sûr qu'il y avait beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de tension aussi parce qu'on en a parlé pendant des mois et des mois. Tout le monde attendait cette course-là. Là, à un moment donné, ça vient te chercher. Tu peux réagir. bizarre, tu peux dire des choses, des fois tu regrettes. D'ailleurs, Donovan l'a regretté, mais il l'a dit pareil. Là.
Ouais.
Mais ça te rend sur le gros nerf. Mais aujourd'hui, on voit plus ça.
Non, clairement. Puis du 25 au 28 juillet, au Centre Claude Robillard pour le championnat canadien, c'est pas le genre de choses qu'on verra. Hey, c'est quand même 1500 athlètes qui seront là et c'est beaucoup de gestion, j'en suis convaincu.
Ouais, c'est beaucoup de gestion, mais écoute, on a des gens vraiment compétents aussi là-dedans. Il y a la Fédération québécoise d'athlétisme qui est derrière ça. Tu as la Fédération d'athlétisme du Canada. C'est des gens qui sont habitués d'organiser ces compétitions-là. Même moi, dans le temps que je faisais ces championnats-là. D'ailleurs, Montréal, ça a été l'un des meilleures organisations de championnat canadien. Donc, j'espère vraiment... Dans mon temps, je ne peux pas faire de comparaison. Le stade, là, c'était plein. Fait que j'espère que les gens vont venir. J'espère que les gens vont là. On va faire de la promotion. Puis si vous allez avoir des informations aussi, allez sur le site web. Évidemment, www.athletics.ca.
OK. Donc, on sera
en mesure.
Exactement. Ouais. Donc, du 25 au 28 juillet. Si tu veux bien, Bruno Surin, on va s'arrêter quelques instants. Et au retour, je veux parler de la nouvelle, la jeunesse là, qui est là.
Parfait.
Parce que j'ai regardé un documentaire sur Netflix, I Am Bolt, sur Usain Bolt. Et pour un gars qui, assurément, a dominé le sprint, entre autres, ce gars-là avait des méthodes d'entraînement à l'ancienne. Je veux qu'on parle des méthodes d'entraînement. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Restez là. On est de retour aux amateurs de sport en compagnie de Bruni Surin. Bruni, juste avant la pause, on s'est parlé du championnat canadien qui aura lieu du 25 au 28 juillet prochain au Centre Claude Robillard, évidemment. Championnat d'athlétisme, les juniors, les seniors paralympiques seront là. Mais là, je veux te parler d'Usain Bolt, je veux te parler du documentaire que j'ai vu, I Am Bolt. Là-dedans, on est convaincu que, du côté de Bolt, que lui va utiliser les dernières technologies pour s'entraîner. Ce qu'on voit, un vieux coach... des poids, un traîneau, tire ça dans le gazon. C'est vraiment old school. Es-tu surpris de voir que ce gars-là qui a tant dominé s'entraînait comme ça à la dure?
Ouais. Je suis pas surpris du tout parce que moi, j'ai encore la mentalité de old school. Quand je vais au gym, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais plus de compétition. C'est sûr que tu as plein de nouvelles techniques, les gadgets et puis tout ça qui vont t'aider à une certaine mesure. Mais la base, moi, je pourrais dire qu'encore ma base à 90%, moi, c'est encore old school. Un moment donné, on parlait de d'étirement, exemple. Mmh. On dit que pour un sprint, fais pas d'étirement avant ta course. Et j'ai essayé de faire ça, j'ai failli d'aller à l'hôpital.
Okay, <t'es> blessé.
Je me suis blessé. C'est comme, non, qu'est-ce qui fonctionne, là? T'as la base, c'est ça. Puis Usain Bolt, ça a été ça. Tu sais, à un moment donné, t'as plein de gens qui allaient, les États-Unis, c'est très, très bon. Il y a de très bons coachs et tout ça. Là, lui, il est resté en Jamaïque, puis il a réussi. Là, il y a plein d'autres Jamaïcains qui restent en Jamaïque puis qui réussissent. Oui, aux États-Unis, tu as le système de NCAA, tu as le scholarship qui est très bon, mais deux filles ont été là parce que tes études sont payées, tu as tes compétitions qui sont payées. Mais à la base, moi, je pense encore que si tu fais des entraînements old school, que tu t'entraînes très fort et que tu au niveau psychologique aussi, que tu le travailles aussi, t'es fort, tu peux réussir n'importe quoi. Tu peux même battre le record du monde aujourd'hui.
Et j'enlève dans tout ça, évidemment, j'enlève le côté dopage parce qu'il y aura tout le temps un petit nuage quand même. C'est sûr qu'il y en aura, comme je suis convaincu que les mentalités tendent à changer également.
Mm-hmm.
Mais j'étais surpris de voir de la relation avec son entraîneur. Un, c'est une relation qui était extrêmement particulière, très, très proche un de l'autre. Et par moment, le coach était assez raide, merci. Même si c'était le grand Usain Bolt, le coach était assez tordu. Est-ce que ça, c'est genre de relation que vous avez avec vos entraîneurs?
Oui, l'entraîneur que j'avais au Texas, Dan Paff, lui, c'était comme ça. Puis je me rappelle qu'il y a eu des conversations avec Donovan. C'est comme, ben écoute, oui, t'es champion du monde. On a travaillé ensemble quand t'étais champion du monde. On travaille même quand t'étais champion olympique. Tu ne viendras pas me dire quoi faire. C'est moi qui décide. Puis si tu ne fais pas tel entraînement, ben retourne chez vous. Ça, je l'ai vécu, là. J'étais là. Puis il disait ça à tout le monde. Lui, que tu sois champion olympique, non, tu fais le travail, puis that's it. Ça, je respecte ça beaucoup. Puis la part de l'athlète aussi, c'est pas à cause que t'es champion olympique, ça, que c'est toi qui vas décider du travail de l'entraîneur. Il faut que tu le respectes. Il faut qu'il y ait un respect commun, là.
Mais avec les nouvelles générations qui veulent toujours savoir pourquoi on fait telle chose puis pourquoi on fait ci.
Oh my God.
Est-ce que tu peux pas appliquer la même formule avec ces jeunes-là aujourd'hui?
C'est difficile. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à ma retraite, tu sais, à un moment donné, je me disais, ben, qu'est-ce qui m'intéresse? Là, à un moment donné, j'avais coach. Puis là, je me suis dit, me connaissant, je pourrais pas être coach. Parce que, justement, la nouvelle génération, c'est pour ça, à un moment donné, entre ma génération et la nouvelle génération, juste avant André Degrasse, il y a eu un clash. Parce que la façon qu'on parlait aux gars, c'était plus rendu. C'était comme, ben voilà, pourquoi tu me parles de même? Ben, c'est parce que c'est comme ça qu'on parle. Puis je leur disais, ben écoute, tu t'entraînes pas assez. Voici les entraînements qu'on faisait. Puis c'est comme, ben non, mais ça a changé. Ça, c'était dans ton temps. Il y a eu un gros clash. J'en revenais pas. Puis j'ai vu des athlètes aussi avec leur entraîneur que le coach, l'entraîneur va dire, ben fais ça. Puis là, l'athlète qui va dire, oui, mais pourquoi? Puis là, aujourd'hui, l'entraîneur qui explique, j'ai dit, ben non, voyons donc. J'ai dit que moi, si je suis entraîneur, je te dis quoi faire, puis tu commences à me questionner, puis à chaque entraînement, là, ben, j'ai pas le temps de niaiser, là. Mais c'est vrai.
Mais comment ça s'est passé? Tu parlais de tes enfants qui ont été à NCAA. Ouais. Est-ce que tu as cette relation-là, des fois, par moment, à pas, tu sais, de dire, ah, regarde, ouais. Là, je vais te parler en tant qu'athlète, là. Regarde, c'est comme ça, faut que ça marche, puis ça, c'est comme ça que ça fonctionne?
J'ai jamais voulu entraîner mes filles. Moi, ma fille, à un moment donné, elle fait de l'athlétisme maintenant. J'ai jamais voulu être son entraîneur. Puis même dans le temps, j'avais ma plus grande qui faisait du tennis. Puis je voyais avec son entraîneur. L'entraîneur disait, voici. Puis ça s'obstinait. Puis j'ai dit à l'entraîneur, j'ai dit, écoute, t'es patient, maudit. Moi, je serais jamais capable. Puis c'était ma fille, là. Mais c'est la génération qui est comme ça. C'est fou. Moi, ça me... Je capoterais. Je serais pas capable.
Et comment ils arrivent à performer, ces jeunes-là, aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont exceptionnels.
Puis ça doit être qu'ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Moi, j'en reviens tout simplement pas. C'est fou.
Et là, il faut que tu prennes ces meilleurs-là qui sont là, entre autres, au championnat canadien. Il y a des objectifs, entre autres, du côté du Qatar en 2019. Ouais. Les gagnants iront au Qatar. Ouais. Mais par la suite, il y a des Jeux olympiques qui s'en viennent.
Les Jeux olympiques s'en viennent. C'est sûr que les standards, oui, sont là. Sont les standards, c'est très fort. On veut envoyer les gens qui ont un potentiel de bien paraître. C'est pas juste mettre le gilet Canada, c'est essayer de performer puis d'essayer d'avoir des médailles. Oui, des fois il y a des athlètes qui disent ah ben les standards sont trop forts puis tout ça nanana, mais c'est la règle est là pour tout le monde. C'est évidemment cet été ça va servir de sélection pour les championnats du monde, justement comme tu disais à Doha. Puis l'objectif ultime pour beaucoup d'athlètes, ça va être l'année prochaine, les Jeux olympiques.
À Tokyo.
On sent déjà la pression venir.
Est-ce que c'est dur à soutenir ça, cette pression-là?
C'est tough. Écoute,
toi, tu l'as vécu, t'as eu le chandail canadien sur le dos.
Oui, c'est sûr qu'un moment donné, ça me rappelle, pendant qu'on parle de ça, un moment donné, j'ai dit à mon entraîneur, dans un entraînement, avant un entraînement ou après un entraînement, j'ai dit, écoute, les Jeux s'en venaient. J'ai dit, c'est pas dangereux que j'aille une crise cardiaque. Non, je te jure. L'entraîneur me regarde et me dit, je sais pas. c'est fou. C'est tellement qu'on sent cette pression-là. Parce que déjà, là, tu te dis, ben écoute, tu vas représenter le Canada. Veux pas, là. T'es à l'entraînement. À chaque jour, les gens viennent te voir. Hey, bonne chance pour les Jeux olympiques. Moi, la phrase qu'on détestait entendre, les gens inconsciemment nous disaient, hey, ramène-nous une médaille.
Ah.
Hey, tu te rends-tu compte? Ramène-nous une médaille. Là, t'es comme, wow! Là, tu sais que tu vas être là-bas. Le Canada entier, le monde va te regarder performer. Tes amis sont là. Des fois, tes amis vont te regarder à la télé. Ta famille, c'est un poids énorme. Puis l'essentiel, c'est d'essayer de faire le vide, de pas penser à tout ça, mais c'est pas évident. C'est pour ça que je te dis que je sens que plusieurs athlètes maintenant commencent à ressentir cette pression-là.
Et là, dans un rôle d'ambassadeur comme toi pour les championnats canadiens, tu vas sûrement avoir la chance de discuter avec ces athlètes-là pour leur dire, regarde, cours pour toi avant de courir pour tout le monde d'autre. Là. J'imagine que c'est ça. Est-ce que c'est ça
le
message?
C'est la phrase que je leur dis tout le temps. Courir, sauter, qu'importe, pour vous d'abord. Ayez du plaisir. Puis moi, je vais dire que tout le monde, s'il y a des gens, des jeunes, whatever, qui veulent venir me parler, je veux pas m'imposer non plus je veux pas rentrer dans leur bulle, mais ils savent que je suis là. Puis ça va me faire plaisir.
Mais somme toute, t'as ramené des médailles, parce qu'on te dit, ramène-nous une médaille. Une chance, t'as ramené des médailles. Mais Bruni Sirin, je veux savoir, est-ce qu'à un moment donné, t'as douté, t'as dit, hey, j'ai-tu vraiment le goût de vivre ça, moi?
J'ai pensé. Des fois, tu y penses. Puis tu dis, my God, c'est énorme. C'est énorme, ça. C'est fou. En même temps que c'est flatteur, en même temps que tu rencontres des gens tout le temps, puis, hey, bonne chance aux Jeux olympiques, et puis tout ça. Mais là, tu dis, oh my God, mais là, j'ai pas le choix de performer. Puis là, j'ai dit, écoute, tous ces gens-là m'encouragent. Il faut pas que je manque ma shot. Hey, c'est un poids lourd, ça. C'est fou, là. C'est fucké, là. Des fois, il y en a qui craquent. Puis j'ai travaillé longtemps avec un psychologue sportif. Ça m'a beaucoup aidé pour relâcher cette pression-là. Mais plus que t'en mènes, plus que la compétition est grosse, la pression est là. C'est fou.
C'est quand même incroyable et en espérant qu'on soit en mesure d'enlever cette pression-là, mais d'apprécier le spectacle pour ce qu'il sera. C'est du 25 au 28 juillet prochain à Montréal. Donc, on accueillera les championnats canadiens d'athlétisme. Ça se passera au centre Claude Robillard. Son ambassadeur, Bruny Surin, est avec nous. Merci beaucoup de ton temps, Bruny.
Ben, ça m'a fait plaisir.
C'est extrêmement apprécié. Merci, Bruny.
Merci bien.